On a vu déjà la semaine dernière des entraves à notre vie d'adoration, dans ce face-à-face avec Dieu. On pouvait être trop passif, penser qu'on n'avait plus rien à faire, que seulement à recevoir. Et puis, c'est encore plus difficile, parce qu'on croit tous que c'est facile. Quand on se pense que c'est facile, c'est jamais vrai. C'est aimer. Et on découvre, et je découvre, et nous découvrons que d'aimer, c'est difficile et qu'on s'est mal aimé, qu'on aime trop pour ce qu'on reçoit et pas simplement gratuitement. On vous a rappelé tout à l'heure les prescriptions, et j'espère que vous avez été bénis par ces psaumes. Hein, aujourd'hui, le psaume d'aujourd'hui, ça commence comme ceci, « Éternel, notre Seigneur ». Si tu peux mettre le PowerPoint. Renoncez. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Le psaume 8, c'est le psaume d'aujourd'hui. Éternel, mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Chaque fois que nous louons le Seigneur, que nous proclamons sa beauté, ses bienfaits, sa beauté, ce qu'il est, il y a tout de suite, je ne sais pas si vous le ressentez, mais tout de suite, dans notre cœur, un écho profond. Alors le thème d'aujourd'hui, Antoine l'a un peu défloré tout à l'heure, c'est le lâcher prise. C'est effectivement ce thème que nous allons continuer et que Antoine a dit que nous devions lâcher prise. Verset, c'est « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, renonce à ta vie. » Le Seigneur veut que nous soyons tous à lui, complètement à lui, rien qu'à lui. Qui se charge le verset complètement, c'est « Si quelqu'un veut venir après moi, et vous l'avez là, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » C'est violent, hein ? Alors il y a un mot, il y a deux mots sur lesquels on va travailler, c'est « sa vie », ou plutôt même le « ça ». Le « ma », le « mon », le « mien », posséder. Qu'est-ce que je possède ? Posséder. C'est quelque chose qui est... Voilà, c'est ma vie. Tu n'as pas parlé de ma vie. C'est mon problème. C'est moi. Avant que l'Éternel crée l'homme, il avait créé la création. Nous voyons ça dans la Genèse. Avec des choses magnifiques sur cette terre. Des choses très belles. Il avait créé plein de choses utiles et merveilleuses pour les hommes. Pour ses besoins. Pour sa joie. Mais au centre de la vie d'Adam et de Ève, il n'y avait qu'une chose. Jésus, Dieu, pour être plus précis. Son sanctuaire, où personne d'autre que Dieu existait et vivait. Quand nous avons chassé Dieu de notre cœur, quand on a dit nous voulons autre chose, nous l'avons remplacé par multitude de petites choses, de grandes choses, de choses terrestres. Mais hélas, toutes ces choses que nous avons remplies, et on en parlait déjà la semaine dernière, que des fois nous avalons avec obésité, mais ce n'était pas le terme, mais ça nous rend des fois obèses, en aucune manière nous a donné la paix, car Dieu n'est plus le roi dans notre cœur. Cette malédiction de la possession est devenue une racine dure, fibreuse, de toujours posséder plus. Une passion dévorante et tyrannique qui nous épuise et qui épuise le monde. On pourra en parler en termes d'économie, mais on peut en parler au niveau spirituel et on peut en parler dans notre cœur aujourd'hui. Et notre sanctuaire, notre temple, le temple du Saint-Esprit, est devenu un lieu encombré par toutes ses possessions, par nos marchandages et nos convoitises. Nous sommes comme dans le temple de Jérusalem, encombré de marchands, de voleurs, de religiosité, de légalisme. Et qu'est-ce que fit Jésus dans le temple ? En voyant les marchands, la cupidité, dans la maison de son père. Ne faites pas de cette maison de prière une maison de trafic. Est-ce que vous l'imaginez assis dans le temple? Je ne connais pas le temple de Jérusalem, mais vous imaginez le brouhaha, la négociation financière, les pèlerins qui vérifiaient qu'on n'était pas en train d'être trompés, de les voler, que les balances n'étaient pas... Tout ça est dans la Bible, hein, donc ça devait exister. Que les balances n'étaient pas traficotées, vérifier que son oiseau qu'on allait acheter était de bonne qualité, de voir que son voisin n'avait acheté trois et que lui qu'un. Tout ça dans le temple de Dieu. Et puis il y a Jésus. J'imagine qu'il s'assoit là, et puis il regarde. Il n'a pas la première place dans ce temple. Il est dans un coin. Il se tait. Il prend son temps. Et il tisse une corde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tisser une corde, ça prend un certain temps. Parce que ça a pris un quart d'heure, 20 minutes. Peut-être que les gens ont dit, pousse-toi, tu me gênes. Je dois mettre mon étal, là. Tu gênes le passage. Et lui n'a rien dit. Et il a tissé. Tresser cette corde. Ma maison n'est pas une maison de trafic. Est-ce qu'il est dans cette situation-là dans ma vie aujourd'hui, dans mon cœur? Est-ce qu'il est simplement dans un coin de mon cœur? Oh, Jésus est là! Mais où est-il? Dans une pièce où quand j'ai besoin, je vais le voir? Et puis il y a les autres pièces, bien encombrées. Est-ce qu'il est dans l'étroit? Ou à l'aise dans notre cœur? Quelle place nous l'avons laissé? Qu'est-ce qu'il entend? Quel brouhaha entend-il tous les jours? Oui, mes amis, dans mon cœur, dans notre cœur, il y a trop de marchands, trop de gens qui volent. Et tant demander au Seigneur. Et c'est une prière difficile, parce qu'un coup de fouet, ben, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas tellement demandeur de coups de fouet. C'est pas facile quand le Seigneur fait le ménage. Mais la question, c'est est-ce que nous sommes prêts à faire le ménage? Alors, je voudrais aller un peu plus loin et dans cette seconde partie, je voudrais qu'on se pose la question qui sont ces marchands qui sont dans mon cœur? De quoi parle-t-on? C'est intéressant de savoir de quoi on parle. Les marchands représentent bien sûr nos habitudes. Nos habitudes aussi de négocier avec Dieu ou avec les idoles. Ce sont les choses de notre vie que nous possédons. Bien sûr, on pense tout de suite au péché, et c'est tout à fait exact, aux désordres moraux, à ces grands et petits péchés avec qui nous avons pris l'habitude de vivre, de faire des compromis. Ça va passer. Puis il y a des phrases plus dures encore qu'on dit. Comme moi qui me font pâle. Regarde, Seigneur, ce que je fais. Ouais, mais regarde mon frère à côté ce qu'il fait. C'est bien pire. On se compare dans le mauvais sens. Pas très joli, ça. Ou alors, on va regarder, celui-là, il a tombé, etc. Alors, on fait des alliances, des compromis tacites. Tu ne parleras pas de mes problèmes, je ne te parle pas de tes problèmes. Et on est tous gentils. Et on est tous mignons. Et on est tous, et on s'aime tous. Mais on ne va pas plus loin. Trop souvent, les choses de notre vie ont pris la première place, au moins trop de place. Elles deviennent notre préoccupation première dans notre vie. Ma voiture, ma maison, mon travail, ma femme, mes enfants, mon église, mon pasteur, mon ceci, mon cela. On est propriétaire, on se prend pour des propriétaires et nous ne le sommes pas. Vous n'êtes pas propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire de votre vie, vous n'êtes pas propriétaire de vos biens. Vous en êtes les intendants. Je ne suis pas propriétaire de ma vie. Je ne suis pas propriétaire de... Voilà. Je pourrais dire, oh ben voilà, êtes-vous propriétaire de votre vie? Renoncer à ta vie, ce n'est pas renoncer à la vie, c'est à ta propriété sur la vie. Il veut qu'on soit radical dans ce domaine. Rappelez-vous, et c'est marrant parce que c'est exactement ce que Antoine a dit, mais d'une autre façon, mais je vais dire les deux. La femme de Lot, qui quitte, qui prend une décision de sortir, qui s'en va, mais n'a pas son temps à regarder en arrière. Un coup en avant, un coup en arrière. Un coup en avant, un coup en arrière. Enfin, et à force de faire un coup en avant, un coup en arrière, elle se fige, elle devient une statue de sel. Oh, le trapéziste, j'y vais pas, j'y vais pas, mais je lâche jamais rien. Oui, j'avance. Et hop, au dernier moment, je reviens en arrière. Ça s'appelle du surplace, de l'immobilité. Et le Seigneur, ce matin, vous dit, non, il faut arrêter de faire du surplace. Il faut choisir, maintenant. Il faut faire des choix radicaux. Et ce choix radical, c'est de renoncer. J'aurais pu dire, ce message, il n'est qu'un mot. Renoncer et déposer à la croix, et trois mots. Si nous voulons que le Seigneur habite pleinement en nous, et pas seulement dans un petit coin, nous devons vraiment suivre l'exemple de Jésus-Christ qui a renoncé. Il faut que nous soyons transformés et demander au Saint-Esprit de venir pour qu'il nous transforme. Comme disait Paul aux Philippiens, ayons en nous, parce que ça peut vraiment être notre parole de ce matin, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais a renoncé à toute chose pour venir sur cette terre. Waouh ! Ce que Jésus a renoncé, ce n'était pas des mauvaises choses. Il n'y avait rien de mauvais en Dieu, en Jésus. Il a pourtant renoncé. Le chemin pour connaître Christ passe par la vallée du dépouillement de notre âme. Nous sommes appelés à déraciner et à demander à Christ de déraciner la racine du désir de posséder, mais de devenir des intendants, des locataires et non des propriétaires. Nous avons un exemple, peut-être, dans l'Ancien Testament, tout tracé. Un exemple que personnellement j'aime beaucoup. Je me suis toujours senti proche de cet homme, même s'il y a quelques milliers d'années qui m'écartent, c'est Abraham. Il fait un modèle de dépouillement. Il abandonna tout pour suivre Jésus, l'Éternel. Il alla dans une ville, dans un pays étranger. Il vécut en nomade, ne s'appuyant que sur les promesses de Dieu. Et enfin, à la fin de sa vie, lorsque le Seigneur lui donna un fils, le fils de la promesse, l'Éternel lui demanda encore une chose. Vous connaissez tous l'histoire. L'Éternel voulait savoir jusqu'où son serviteur était prêt à aller. Dans son engagement, qui avait la première place? Le fils de la promesse ou l'Éternel? La main de l'Éternel ou la face de l'Éternel? C'est terrible comme question. L'Éternel lui dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous pouvons à peine imaginer ce qui s'est passé dans la tête, dans les pensées d'Abraham à ce moment-là, les questions, les doutes. Quoi, Jésus, Dieu, tu me demandes, tu m'as promis des choses, tu me donnes ces choses et maintenant tu me les retires? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous êtes retrouvés dans ces situations d'Abraham. J'espère qu'on ne sera jamais dans ce genre de situation. Mais Dieu veut nous aller jusque-là. Pourquoi je l'aime réellement? Bien sûr, et c'est très clair, et soyons très clairs sur ce point-là, Dieu ne demandait pas la mort d'Isaac. Et je ne confonds pas ça avec la terrible expérience que peut-être certains ont vécue de perdre un enfant. C'était simplement de savoir où, jusqu'où allait l'engagement d'Abraham. Est-ce qu'il était prêt d'abandonner la chair de sa chair? D'abandonner non seulement son fils, mais la promesse. D'abandonner la promesse du peuple élu. C'était tout ça qui était en jeu. C'était toute l'alliance qui était en jeu. Vous vous rendez compte de ce qu'il a lâché? Oui, nous avons un Dieu qui veut régner seul. Il est jaloux. On le chante, on le dit, mais on ne le pratique pas assez. Alors j'ai un petit témoignage, pas du tout du niveau d'Abraham, mais à mon niveau, et c'était avec un de mes fils, alors je ne vais pas trop en dire parce qu'il bon, n'est pas dans la salle, mais il ne faudrait pas que vous le reconnaissiez trop. Mais il y en a cinq, alors bon, ça va. Bon, j'ai une habitude avec les garçons, c'est quand ils ont 18 ans, c'est de faire un voyage père-fils, tout seul. Bon, c'est une belle expérience, bon courage les papas, faire ça. Et donc avec ce garçon, on avait décidé de traverser la Bretagne en vélo. Ouais, c'est pas mal, 3 jours en vélo, voilà. Un beau péjour, pesté, voilà. Et donc je pars, et à ce moment-là, ce fils, mon fils, n'allait pas bien. Et c'était, il y avait plein de, je n'ai pas raconté, mais c'était vraiment difficile. Et ça faisait des années que je tirais, que je tirais. Et j'étais à bout, moi aussi. Et puis on était sur notre vélo, tous les deux. Et puis même en vélo, il traînait la patte régulièrement, il a fallu que j'attende. Voilà. Et puis à un moment, je dis à Dieu, mais j'en peux plus. Je lâche. Je ne peux plus. Il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Moi, ça vous êtes peut-être tous les pères, je pense, à un moment, ils disent, attends, moi, je ne peux plus, là. Je te donne mes forces. Je vais y passer. Et j'ai dit à Dieu, je te lâche, je te laisse. Tu fais ce que tu veux. Je peux plus rien faire, moi. Et puis il était 600 mètres, 700 mètres, en train de s'arrêter. On était dans une forêt de brocéliande, ça ne s'invente pas. Ah oui, on est bretons. Et donc, moi, je continue un peu. Puis je dis, il va me suivre, il va reprendre son vélo, puis il va continuer. Et puis, ce qu'il m'a expliqué après, c'est qu'il s'est assis dans une clairière. Et puis que là, Dieu lui a parlé. Et qu'il y a eu une visitation du Seigneur incroyable et qu'il s'est converti ce jour-là. Il serait converti, mais il fallait que je le lâche. Il fallait vraiment que je le lâche. Et là, je peux vous assurer, il n'y avait pas de couteau. Mais dans mon cœur, ce jour-là, je m'en souviens, parce qu'on ne fait pas tous les... Enfin, les papas et les mamans peuvent peut-être entendre, on ne lâche pas comme ça son fils. Et là, je l'ai vraiment lâché, parce qu'il fallait que je lâche. Et là, c'était ça que Dieu attendait, et peut-être que j'étais tout simplement aussi un écran, par tout mon amour entre lui et Dieu. Ah ouais, ça nous laisse réfléchir. Oui, comme Abraham, Dieu nous appelle à même laisser les choses les plus précieuses, les promesses, à la fois, on pense à nos enfants bien évidemment, mais on pense aussi à tout ce que Dieu nous a donné. Est-ce que je m'attache plus à au charisme, au don, au ministère que Dieu m'a donné, ou à Dieu lui-même? Est-ce que vous dites mon ministère, mon talent, mon église? Apprendre à savoir rien posséder. Comment faire? Quatrième point. Là, tu suis mon ami Quentin. On a sauté un point. Là, c'est B, renoncer. On l'a fait. Et maintenant, dépouiller à la croix. Super. Je vais te donner les titres, comme ça tu pourras suivre. Merci en tout cas, Quentin. Si nous voulons vivre une intimité croissante avec le Seigneur, nous devons marcher dans la voie du renoncement. Mais par nous-mêmes, par nos efforts, ça va être compliqué, les amis. Parce que c'est quand même bien enraciné. Et nous avons besoin de la puissance du Christ, de la puissance de la croix. C'est seulement devant la croix, devant le Christ, que nous aurons la capacité de pouvoir renoncer et déposer, et que ça soit réel et définitivement acté. Autrement, dans votre cœur, vous pourrez toujours le dire, mais vous le ferez, ça ne sera pas réel. C'est que devant le Christ. En effet, il est écrit, si nous devenons une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Il faut que sa mort meure. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Renoncer, c'est mourir à soi-même. Et c'est dans ce sens-là qu'il dit à porter sa croix. C'est de mourir, c'est pas de porter nos souffrances ou quoi que ce soit. C'est de se revêtir du Christ. Oui, à la croix, je peux ôter mes vieux vêtements. C'est en sa présence bienveillante, dans la confiance devant la croix, que je peux déposer toute chose, que je peux tout donner, et que Jésus, je peux dire à Jésus, je te donne ma vie. Et ça veut dire que je te donne, je n'ai plus ma vie, mais c'est la tienne. Le ma a disparu. Je suis encore vivant, mais c'est plus ma vie, c'est la vie du Christ. Et Seigneur, dans la vie, et dans pas ma vie, déracine, enlève ces mauvaises herbes, laboure mon cœur, transforme-moi. Faire cette prière que j'ai pu faire quand j'étais jeune converti, et je l'ai fait souvent, je suis l'argile, tu es le potier, fais ce que tu as à faire. Oui, la croix, c'est le lieu, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. C'est Jésus qui a renoncé, qui a abandonné, qui n'a pas pris pour une proie d'être l'égal de Dieu, mais qui s'est abaissé, qui s'est dépouillé pour venir sur cette terre. Et qui est venu là, ce que nous tirons sans force, afin de nous sauver, que nous puissions déraciner les racines possessives dans notre cœur. C'est voilà le chemin, le beau chemin que nous propose de vivre, de continuer à vivre cette semaine, pour grandir dans notre intimité à Dieu. C'est ce chemin que tous ensemble, d'un commun accord, nous pouvons faire, dans la persévérance et l'humilité. Parce que je suis bien conscient que quand je dis cela, je suis moi le premier et nous tous, conscients de tout le travail que nous avons à faire, pour ne pas dire ma vie, ma femme, etc. Pour ne pas dire ma vie. C'est énorme quand on réfléchit. On va se tourner vers la croix, vers le Seigneur, pas pour construire un autel, mais pour être cet autel. Allez, ce matin, je vous propose quelque chose de très simple, et on va prendre le temps, et j'ai voulu que ce message soit court pour qu'on ait le temps, y compris dans le silence, pour cela. C'est de réfléchir à ma vie, et d'écrire sur un papier un mot, une ligne, pas toute votre vie, ça va être compliqué, c'est de s'attaiser. Une chose qui vous paraît peut-être le plus lourd, le plus difficile à lâcher, à renoncer, et puis que symboliquement, vous savez, le fait d'écrire, de prendre un peu de temps dans le silence, d'écrire, et puis au moment du repas, on viendra tous ici, et puis on va mettre un petit papier. Ne vous inquiétez pas, tout sera brûlé, il n'y a pas d'étude de graphologie, ne vous inquiétez pas. Écrivez tout ce que vous voulez écrire. J'ai les papiers, je n'ai pas les crayons, donc il faudra que vous prêtiez les crayons si vous n'en avez pas. Mais vous savez que c'est la chose la plus utile, le meilleur service que Dieu peut nous rendre ce matin. J'ai témoigné à travers l'histoire de mon fils. Mais prendre le temps pour abandonner une habitude, un mauvais comportement, une possession, une personne. Et soyons sans crainte. En disant, mais qu'est-ce que je vais faire si je n'ai plus ça? Qu'est-ce que je vais faire ça si je n'ai plus cette habitude? Qu'est-ce que je vais faire si je n'ai plus mes médicaments? Qu'est-ce que je vais faire si j'abandonne cela? Ça a été ma béquille pendant tant de temps. J'ai toujours vécu avec ça. Est-ce que je peux vivre sans cela? C'est peut-être, je comprends, ce n'est pas un sujet facile, ce n'est pas si simple à dire et à faire. Hein, et je suis conscient de ce que Dieu nous demande ce matin, n'est pas simple ni facile. Mais ce que je sais, et le témoignage que je donnais tout à l'heure montrait que lorsqu'on donne à Dieu, Dieu en prend soin. Nous, quand on possède, on les possède comme des mains qui avares, qui tient. Allez, alors je vais vous la faire. Vous avez remarqué que j'ai fait deux enseignements sans parler de film. Alors, mon précieux, mon précieux, mon précieux. Bon, je le fais moins bien. Mais c'est clair. Je veux posséder. J'avais un fils, ça le terrorisait. Gollum, quand il était petit. Mais je crois que ça le terrorisait parce qu'il disait, mais jamais je vais être un Gollum. Moi non plus, je veux surtout pas être Gollum. Pas beau quand même. Mais quand nous déposons à Dieu les choses, nous déposons dans une main qui est bienveillante et qui prend soin de ce que nous allons déposer, même si c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Et même si c'est nos enfants, par exemple, ou notre mari, ou une personne chère. Lorsqu'on dépose à Dieu, c'est le meilleur service et on dépose dans le meilleur endroit où ça peut être, dans les mains de Dieu. Alors, je vous propose de couper des petits papiers. Enfin, on a fait de grands papiers. Donc, si vous voulez bien, Gauthier, tu veux bien nous aider? Ou Isabelle, enfin, voilà, on va distribuer ça. On va prendre la Sainte-Seine. Je vais demander aux personnes qui ont été désirées par la Sainte-Seine de venir devant. Alors les amis, voilà, Nicolas, Christine, Il y a un autre couple encore ou vous êtes tous les quatre? Non, mais bon, peu importe, ce sont deux. Donc Nicolas, Francis, Christine, alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre de chaque côté, ici, avec le pain et le vin, de deux côtés de la croix. Et puis les gens vont venir par les rangées. Déposez vos petits papiers. Donc devant, il y a une corbeille, vous entendez? Parce que vous ne mettez pas les choses pas au bon endroit. Voilà. Puis mettez-vous sur le côté aussi. Donc vous pourrez déposer votre papier au milieu et prendre le pain et le vin. C'est un peu... Et là, je ne suis pas liturgique, Hélène l'a dit, mais l'ordre, ça serait de commencer par déposer son papier et de prendre le pain et le vin. La logique. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais spirituellement, c'est dans ce sens-là. Et si vous voulez bien, avant que vous... Vous n'êtes pas là pour copier sur votre voisin. On va faire un temps de silence, je vais peut-être prier pour ce temps. Et puis, je voudrais vraiment que maintenant, ça soit le silence complet, surtout pendant le temps, et on va attendre 4-5 minutes, qui c'est vraiment le temps de... Voilà, je suis dans les temps, donc on prenne quelques minutes pour que, dans le silence total, je vais faire une petite prière, et puis dans le silence, vous allez écrire ce que vous avez à écrire. Père, je veux te connaître profondément, mais mon cœur lâche a peur de renoncer à ses jouets. Je ne peux m'en séparer sans ta présence et sans la puissance de la croix. Et je veux pas te cacher que j'ai peur de me séparer. Je viens en tremblant, mais je viens devant toi, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, déracine de mon cœur toutes ces choses que j'ai chéries si longtemps et qui font partie maintenant de ma vie, afin que tu puisses entrer en moi et habiter sans rival. Alors, tu rendras mon cœur glorieux, et mon cœur n'aura plus besoin de soleil pour briller, car tu seras sa lumière et ne fera plus nuit. Merci Seigneur pour la grâce d'être ici. Merci Seigneur Jésus de m'inspirer et de me parler maintenant sur ce que je dois renoncer et déposer au pied de la croix. Parce que en toi, tout est possible. Et seul toi peux faire ce miracle dans ma vie. Amen. Soyez les amis bénis.